Vous écoutez Logosphère, l'émission de reportages et d'entretiens, de rencontres et de réflexions. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est Logosphère sur les ondes d'univers. Alors nous sommes ici à aider dans le cadre du festival de poche bonus et nous sommes avec Laurette Moreau, bonjour à vous.
Bonjour.
Laurette Moreau, vous avez proposé une performance aujourd'hui qui s'intitule Fort Réconfort dans l'école publique de Aidé. Est-ce que tout simplement vous pourriez nous présenter cette performance, en quoi elle consistait ?
Alors, Fort Réconfort, c'est une performance évolutive sur laquelle je travaille depuis un certain temps et qui va continuer à évoluer dans d'autres paysages bientôt. C'est important de préciser ça parce que ici, ça fait 2 semaines que je suis en résidence au théâtre de poche et dans cette école plus précisément pour travailler sur ce projet et préparer ce qui a été présenté aujourd'hui. La semaine dernière, le week-end dernier, j'ai reçu un groupe de participants et de participantes de la région qui sont des personnes qui s'identifient comme éco-anxieuses pour faire un week-end du réconfort, un atelier participatif sur tout le week-end au cours duquel on a expérimenté plein de petits protocoles et de petits jeux pour déplier nos émotions et essayer de convoquer du réconfort et de la joie face aux émotions qui peuvent être un peu difficiles parfois, qu'on peut ressentir dans le cas des dérèglements climatiques au sens large.
Donc l'éco-anxiété, c'est ça justement.
C'est le point de départ du projet. Donc moi je suis une personne éco-anxieuse, je le suis depuis longtemps parce que j'ai grandi avec une mère écologiste qui m'a sensibilisée à ces enjeux très jeune. Et donc l'écologie a été vraiment une part importante de mon éducation et je m'en suis un petit peu détournée à un moment parce que je sentais que ça me générait beaucoup d'émotions et parfois des émotions difficiles à gérer, et notamment la sidération, vraiment un sentiment de sidération face à ce qui nous attend. Et puis j'ai décidé à l'âge adulte de me reconnecter à cette sensibilité et constatant que les émotions étaient toujours très fortes, j'ai eu la sensation que ce serait intéressant d'imaginer un endroit, un espace-temps dans lequel je pourrais me connecter à d'autres personnes qui ont des émotions à déplier en rapport avec les dérèglements climatiques et leur proposer un rituel de réconfort. Je postule que pour sortir de la sidération, on a besoin de se réconforter collectivement et peut-être pouvoir, à partir de là, trouver le chemin de l'action.
Qu'est-ce que vous signifiez par sidération ?
Bah, c'est un sentiment de paralysie. L'impression d'être. L'image que j'utilise beaucoup dans ce projet, c'est l'image d'une vague, l'image du tsunami. Avoir l'impression de voir arriver une vague menaçante et qu'elle s'élève face à nous et en fait d'être un peu comme un lapin devant les phares d'une voiture, quoi. D'être totalement incapable de se mettre en mouvement pour faire face à ce trop-plein d'émotions. Et du coup, ouais, c'est ça un petit peu le point de départ, le sentiment que en fait, le flux d'informations qui nous parvient sur les dérèglements climatiques, il est super important parce qu'on a besoin de savoir ce qui se passe pour pouvoir changer des choses, pour pouvoir bouger, pour pouvoir s'activer. Et en même temps, ce flux d'informations peut être paralysant. Et donc, voilà, j'essaie de déplier un petit peu cette émotion et surtout de me frotter à d'autres sensibilités pour trouver des façons de sortir de cette paralysie.
Alors, ces réconforts-là, ces rituels, ce ne sont pas des propositions que vous faites, ou du moins, c'est plus une invitation que vous faites à trouver des formes qui nous réconforte d'une certaine manière.
Oui, en fait, j'ai constaté que moi, j'avais un ensemble de rituels personnels, comme ça, dans ma vie, quand ça va pas, je fais une série de choses. Et je pense qu'on a tous des rituels. Et l'idée, c'est d'une part de s'en parler, de mettre en commun ces ressources, qui sont des ressources très utiles, pour pouvoir s'inspirer éventuellement des rituels des autres personnes, et renouveler nos rituels de réconfort, parce que j'ai remarqué aussi que les rituels de réconfort ont tendance à s'épuiser un petit peu quand on les utilise très souvent. Et donc déjà ça, et puis aussi j'aimerais pouvoir collectivement imaginer des nouveaux rituels de réconfort, des rituels de réconfort qui permettent de se sentir connecté à d'autres personnes, à d'autres vivants. Et donc, il y a cette invitation à mettre en partage nos rituels. Et puis, il y a, à l'intérieur du projet, il y a d'autres dimensions. Il y a toute la relation avec les êtres non humains qui, moi, m'apporte beaucoup de réconfort de réinventer mes relations avec le vivant. Il y a des voyages dans le temps. Il y a une dimension futurologique où on pourrait essayer de se réapprivoiser à un futur qui paraît comme barré d'avance, comme ça, ou le sentiment d'être face à un mur. Moi, je m'amuse à faire des petits voyages dans le temps de très petites amplitudes, mais qui permettent de se réapprivoiser le temps.
Qu'est-ce que vous définissez par réconfort, justement? Quelle signification vous lui donnez et quelle sensibilité aussi?
Le réconfort, c'est... si on imagine que quand on se sent mal, on est comme... si je reviens à cette image de la sidération, on est comme gelé. Pour moi, le réconfort, c'est quand on se réchauffe et qu'on retrouve, en fait, la capacité de se mettre en mouvement, quand notre corps se réchauffe et peut se mettre en action. Le réconfort face à la tristesse. Le réconfort, il est très fort lié au confort pour moi. Il est lié au fait de se sentir dans un environnement qui est sécurisé, qui est douillet. Donc je travaille beaucoup sur tous les codes aussi du réconfort. La chaleur, le douillet. après, c'est différent pour tout le monde. Et c'est ça qui est intéressant d'explorer ce que le réconfort veut dire pour chacun et chacune.
On parle justement aussi de la sidération. Vous parlez de la sidération devant les événements climatiques, et pas que climatiques d'ailleurs. On a un flux d'informations effectivement extrêmement dense qui peut être chaotique. Est-ce que à travers ces rituels, c'est aussi une manière de pouvoir se réapproprier une manière d'être au monde, de pouvoir être au monde?
Là-dessus, il y a... une des choses qui m'a beaucoup aidée à changer de perspective, c'est de me plonger dans d'autres façons de traiter ces enjeux que le côté informationnel qu'on a dans les médias. Et notamment, il y a plein de philosophes qui travaillent ces dernières années sur la question d'habiter les ruines, sur le futur. Mes sources d'inspiration les plus importantes sont Donna Haraway, Vinciane Desprez et Isabelle Stengers. Mm-hmm. C'est un peu un trio de philosophes qui ont tendance à se renvoyer des balles, et donc je l'aime bien les citer à trois parce qu'elles construisent vraiment une pensée qui rebondit, des pensées qui rebondissent ensemble et qui s'entremêlent. Mais bien sûr, il y a Feu Bruno Latour, il y a Baptiste Morisot qui travaille aussi beaucoup sur la relation au vivant. C'est des pensées qui, entre autres, et je pourrais en citer d'autres, Myriam Bahafou, Rebecca Solnit, il y a plein de penseuses qui m'accompagnent et qui me donnent de l'espoir, en fait, parce qu'elles abordent ces questions avec un autre prisme, souvent en mettant plus de complexité. C'est pas forcément facile, mais par contre, ça permet de voir le monde un peu en 3D et de sortir des récits comme par exemple les récits sur l'effondrement ces dernières années, ça a été vraiment très central dans les médias et aussi dans plein d'autres productions culturelles. Cette idée de l'effondrement, la collapsologie, un jour tout va s'effondrer, c'est vraiment une façon d'aborder les choses qui pour moi me coupe complètement de ma capacité d'agir parce que j'ai tendance à me dire bah, ça va de toute façon s'effondrer et puis peut-être même à être fascinée par cette idée de la catastrophe et du grand soir comme ça où tout va s'ébouler. Et voilà, les penseuses que je viens de citer m'aident à sortir d'un récit comme ça trop facile ou trop... voilà, les récits d'apocalypse, on les connaît par cœur. Et à imaginer d'autres mondes, d'autres façons d'aborder ces enjeux cruciaux.
Et justement, dans le cadre, dans le champ artistique, est-ce que cela vous amène aussi à réfléchir à d'autres formes artistique pour le coup?
Bah oui, c'est sûr que là, j'ai un cursus et une expérience plutôt dans le théâtre. J'ai fait des pièces de théâtre jusqu'ici, parfois participatives, souvent pas classiques dans leur approche, mais quand même plutôt du théâtre. Et en fait, il m'est apparu en travaillant sur ce projet qu'il me fallait une forme beaucoup plus dans l'interaction, beaucoup plus coopérative et participative. Et donc, j'ai imaginé une forme qui n'est pas forcément ce dans quoi je me suis illustrée avant, disons. Et je pense que oui, c'est hyper important de réfléchir à des formes qui sont en résonance avec les enjeux qu'on essaie de traiter. Donc, c'est l'ambition que je me suis donnée.
Cette performance qui va prendre de multiples visages, puisqu'elle est participative, où est-ce qu'elle est amenée à être reproduite et rejouée?
Donc elle rejoue demain à Aidé Bazouge. Là, on fait deux sessions. Et puis, il va y avoir plusieurs escales en Belgique, à Namur, à Bruxelles et à Mons, à l'automne 2023. Et puis en 2024, il va y avoir des escales en France, à Saint-Médard-en-Jalles et à Port-Saint-Louis-du-Rhône, notamment, mais aussi d'autres dates encore en Belgique, à Liège, etc. Donc ça va continuer en 2024, certainement encore en 2025. On est parti pour, un petit temps.
Très bien. Merci à Laurette Moreau pour donc cet entretien autour de cette performance intitulée Fort Réconfort que vous avez proposée ici même dans le festival Bonus à Aidé. Merci à vous.
Merci à vous. I was told many things early on in my life. Some will always be true till the moment I die. I was taught to believe and to use my own eyes, let alone to conceive, left alive to survive. I belong to the earth, and the earth
belong to the earth, and the earth to the sky, as I walk to the end of my moment in time. I was taught to believe and to use my own eyes, let alone to conceive, left alive to survive.
Fréquenter la beauté tout le mois de juillet, pauvre cœur, je manquais d'amour. J'ai fréquenté la beauté chaque jour abreuvé à l'illusion des toujours. L'amour qui s'est dévoré, qui nous jette au panier, pleurniche en route de la tour. L'amour qui sait nous tromper, jamais sûr d'être aimé par les rondelles des faubourgs. J'ai fréquenté la beauté, je n'en ai rien gardé. Fréquenter la santé, chaque matin le lait, cœur humide, je Noël, l'amour. J'ai fréquenté la santé, par les champs, les forêts, partout où me menait le jour. Derrière la balle aux forêts, nuit parmi les genêts, je suivais la cave à l'amour. J'ai fréquenté la santé, baiser, boire et manger pour les rondelles des faubourgs. fréquenté la santé, je n'en ai rien gardé. J'ai fréquenté la gaieté tout un mois de janvier, nuit et jour il neigeait autour. J'ai fréquenté la beauté sur la baie à l'enchaînement des toujours. Au luxe qui garde le corps sans regret, sans remords, sous la cascade qu'elle adore. J'ai fréquenté la gaieté, mais je n'ai rien gardé de l'hirondelle du faubourg. J'ai fréquenté la gaieté, je n'en ai rien gardé.
The only way is just the only way. The chunky children of evermore.